Salut à vous, chers auditeurs. Bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock'n'Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. Autour de la table, le roi et l'oiseau. Salut à toi, Olivier.
Salut. Salut Marco, salut Eric, salut tout le monde.
Salut Eric.
Salut à toutes et à tous.
On va revenir sur ce match Saint-Étienne-Bordeaux pour le compte de la sixième journée. Et oui, c'est un match, c'est le match le plus joué du championnat français. Hein. Saint-Étienne-Bordeaux, c'était la 119e rencontre. Et pas de suspense, les Verts ont été défaits à domicile. Une autre défaite en plus, toujours pas de victoire pour nos Stéphanois. On va donc longuement revenir sur cette rencontre qui avait lieu samedi soir à Geoffroy Guichard qui fêtait ses 90 ans. On va passer de la musique, hein, Rock'n'Foot oblige. On passera aussi de l'actualité altiligérienne concernant le football. On passera l'agenda, il y aura des questions. Et on parlera aussi donc de l'actualité en dehors du terrain de jeu. Voilà, c'est parti pour 55 minutes d'émission.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end.
Alors, pour cette rencontre entre Saint-Étienne et Bordeaux... Alors, on était autour de 23 000 spectateurs à Geoffroy Guichard. Claude Puel avait aligné sur le terrain Green dans les buts. Une défense à 3 avec Nadé, Moukoudi et So. Milieu de terrain, Colo sur la gauche, Bouanga sur la droite et Neyou et Gournadois au milieu. Kazri, Amouma sur les côtés et Ramirez en pointe. Alors... pour cette rencontre-là, dans un match entre deux équipes encore incapables de l'emporter depuis le début de saison, Saint-Étienne et Bordeaux se sont livrés un véritable combat remporté au finish par les Girondins grâce à un doublé de Wang. Les hostilités ne mettent que quelques minutes à se lancer dans un chaudron en fusion pour ses 90 ans. Après une perte de balle de Colo sur le côté gauche, parfaitement lancé par Onana, Adli décale impeccablement Wang pour glacer le peuple vert d'entrée à la 7e minute. Un but qui libère les Stéphanois qui se livrent sans calculer. Bouanga, puis Amouma. Amouma pense obtenir un pénalty à la 16e minute de jeu, mais Monsieur Gauthier, l'arbitre central, en décide autrement. Puis le même Amouma frappe juste à côté du poteau à la 26e minute de jeu. Si Wang est proche du doublé à la 35e, Kazri vient rappeler la domination des hommes de Claude Puel, en même temps que leur manque d'efficacité à la 44e minute de jeu. Sous un véritable déluge, le début de la seconde période se transforme rapidement en partie de waterpolo entre glissades et ballons freinés sur chaque passe. Pas suffisant pour stopper les Verts, mais Amouma se déchire à la 61e minute et Kazri manque à nouveau la finition sur un service de Crasso à la 67e minute de jeu. La délivrance finit malgré tout par arriver grâce au Tunisien, encore et toujours buteur en angle fermé. À la 73e, Geoffroy Guichard se réveille, les locaux y croit de plus en plus, mais Wang réussit un bel exploit pour climatiser tout le stade suite à une erreur de Moukoudi. C'était la 80e minute de jeu et permettre à Bordeaux de l'emporter grâce aussi à un sauvetage incroyable de Pembele à la 91e sur une frappe peut-être de Moukoudi trop molle sur ce terrain détrempé, lui qui aurait eu une bonne idée de se racheter de son erreur 10 minutes avant. Voilà pour cette rencontre, douche froide donc à Geoffroy Guichard et une fois de plus, les Verts vendangent face à Bordeaux.
Oui, merci Marco pour ce compte rendu, douche froide effectivement au sens propre comme au sens figuré pour l'ASS qui a vu les éléments se déchaîner et s'est noyé dans du Bordeaux qui laisse en bouche beaucoup d'amertume. Les Girondins ont fait trinquer les Verts qui ambulent Calis jusqu'à la lie et gâcher l'anniversaire du chaudron. Alors qu'est-ce qui, selon vous, explique le plus cette troisième défaite de rang? Est-ce que vous pointez plus la maladresse stéphanoise, les conditions de jeu dantesques ou bien l'arbitrage défaillant?
Un peu de tout ça,
c'est
non?
C'est quoi le premier, c'est quoi?
La maladresse qui est récurrente, les occasions...
Ouais, encore, t'es gentil.
Le manque de réalisme devant et puis énormément de déchets dans les centres en particulier. Ouais.
En fait, j'en pas forcément un des trois là. Parce que la maladresse, en fait, si tu regardes bien, on a eu des opportunités, mais les Bordelais aussi, ils en ont eu. Et en fait, on n'a pas trop eu un déficit au niveau de, à ce niveau, je trouve. Alors, il y a Amouma qui rate.
Kazri.
Mais ouais.
Aussi.
Et Kazri aussi, bien sûr.
Mais Bonga.
Et en fait, il y a une stat qui est intéressante. Vous voyez ce que c'est, les expected goals? C'est en fonction de la position où l'attaquant, ou enfin le joueur a tiré au but, ils ont fait des milliers, des centaines de milliers de possibilités pour voir si combien de joueurs dans cette position ont marqué. Et en fait, du coup, ça permet de voir si par rapport à ces occasions, t'es en déficit ou si t'es au-dessus de ce que tu as marqué, tu vois. C'est-à-dire, et en fait, on n'est pas tellement, j'ai regardé tout à l'heure, on n'est pas tellement en déficit de réussite. En fait, je crois que on marque un but et on est à peine en dessous, on est à 0,86. Il y a pas, voilà, parce qu'en fait à part bon Moukoudi, il est pas loin aussi. Et les Bordelais, eux, ils sont juste aussi au niveau de deux, quoi. Il y aurait eu un déficit si nous on était à trois possibilités pour un but. Et là, on est en dessous. C'est cette stat que j'ai vu. Alors contre Montpellier, par contre, non. Contre Montpellier, je suis d'accord avec toi que le manque d'efficacité devant était criant. Mais là, j'ai pas trouvé. Ils peuvent pas tout marqué et on regarde, si on regarde les tirs aussi, les Bordelais ont eu autant de tirs que les Stéphanois. Donc c'est pas à ce niveau-là, c'est plus, moi je l'ai dit la semaine dernière, mais je trouve la défense hyper naïve. Mais voilà, après c'est mon avis.
Donc moi, pour te répondre, Eric, oui, s'il y a un manque d'efficacité devant le but, que ce soit Kazri et Amouma en deuxième période, là c'est des occasions franches, et Bouanga et Amouma en début, voilà, c'est qu'ils cadrent pas, quoi. Kazri a cadré, mais c'est Costil qui fait un bel arrêt. Il y a toujours cette maladresse du dernier geste qui nous blesse, quoi, qui nous fait mal de match en match. Et puis oui, l'arbitrage, le penalty non sifflé à la 16e minute, c'est scandaleux à tout point de vue. Donc il y a cette histoire de pénalty qui peut quand même changer la donne, et puis l'arbitrage en général de M. Gauthier sur les 90 minutes de jeu, avec des grosses fautes et des Girondins, notamment sur Kazri, hein. À un moment donné, il y a un gros tacle. Bon, c'est vrai qu'il y a la pluie qui fait que les tacles, ils partent un petit peu dans tous les sens. Mais là, il peut sortir le deuxième jaune. Et c'est presque un miracle que les Girondins, ils restent à 11 pendant 90 minutes. Mmh. Donc, la maladresse, plus l'arbitrage, et puis le fait d'être un peu marabouté. Il y a effectivement les conditions dantesques qui sont arrivées lors de la deuxième période. Après, ces conditions, elles vont pour les deux équipes, mais ça n'aide pas à poser le jeu pour pouvoir revenir dans cette rencontre et pouvoir l'emporter. Moi, ce que j'ai aimé ce samedi, c'est que j'ai assisté à un match très plaisant à regarder, et c'était un vrai combat, et qu'il y a eu de l'animation. Il y a eu de l'animation. Donc, moi, je me souviens des matchs l'année dernière où on s'emmerdait vraiment parce qu'il y avait très peu d'occasions. Là, il y a des occasions. L'inconvénient, c'est qu'on ne met pas au fond et qu'on a une défense très friable.
C'est vrai que par rapport aux intentions, on n'est pas verni. Vous parlez de la défense. Vu les conditions de jeu, c'est quand même, il y a quand même un vrai manque de lucidité sur un terrain gorgé de comme ça. Il aurait été quand même préférable de privilégier le jeu aérien. Et rappelez-vous, c'est ces ballons comme un retrait là, à Green, c'est extrêmement dangereux. Et Green lui-même qui continue à jouer court avec ses latéraux.
Exactement.
J'ai trouvé ça quand même assez hallucinant. Et ça nous adapter en fonction du contexte, quoi.
Pareil, j'ai dit c'est pas vrai, ils comprennent pas, mais ils ont rien dans la tête ou quoi. Il y a eu juste Bouanga à un moment donné vers le poteau de corner qui a dû donc monter la balle pour pouvoir la dégager. C'est le seul moment où j'ai dit enfin quelqu'un qui a compris qu'il fallait aller comme ça. Et regarde le deuxième but que l'on prend, ça vient d'un dégagement de Costil. La différence, elle est là, et aussi dans la tête, hein. Et c'est pas une question on est motivé, on en veut. Non, c'est une question d'intelligence. Et là, on voit très bien qu'ils sont très limités, nos Stéphanois.
Au niveau QI, football, ouais. Après, il y a deux périodes. La période où tu peux pas jouer au foot, je me demande si elle est analysable, en fait. Franchement. Parce que suivant la zone du terrain, le ballon n'avançait pas. Discuter de cette partie de match où vraiment le ballon ne roule pas, franchement, c'est pour moi. Alors je dis pas qu'il fallait arrêter, hein, parce qu'en Angleterre, ça joue. Mais c'est inanalysable. Je vois pas comment on peut analyser cette rencontre. Ouais, mettre des grands ballons devant, ouais. Oui, c'est vrai que c'est mieux que de prendre des risques, hein, quand tu sais pas si la balle va avancer de 5 ou de 3 mètres.
Le plus beau match auquel j'ai assisté devant ma télé, c'est Belgique-Corée du Sud, Coupe du Monde 86, et le terrain était dans le même état, gorgé d'eau, et c'est un des plus beaux matchs que j'ai vus.
Bah c'est pour ça que plus de spectacle. C'est pour ça que le Coréen de Bordeaux est avantagé là.
Ouais, exactement. Exactement.
Alors, les Bordelais aussi sont avantagés. Ils ont l'océan à côté. Ça...
Ouais, et l'habitude de la mousson. Donc en 6 journées, les Verts ont concédé à 5 reprises l'ouverture du score. Et comme lors des 2 précédentes fois à domicile, ils ont réussi à revenir à un partout. Alors à ce moment-là, personnellement, je les pensais capables d'inverser la tendance, mais le réalisme de l'adversaire, on en a parlé tout à l'heure, a une nouvelle fois fait la différence. On a l'impression finalement que à ce niveau-là, le problème est insoluble. Est-ce que vous voyez des solutions, vous, pour enfin changer la donne quand les Verts, comme ça, se retrouvent menés, qui plus est à domicile, quand on revient au score et on ne parvient pas à faire la différence et au contraire, on se fait planter en contre
Tu veux dire pour revenir au score? Mais moi, je dirais l'erreur. C'est vrai que on l'a pris le but. Donc, mais moi, l'erreur, c'est prendre 2 buts sur un match comme ça avec une équipe aussi. Je l'ai dit, hein, c'est l'armée mexicaine, les Bordelais. Franchement, ils sont arrivés il y a 10 jours, hein, la plupart. Bon, Wang, il a traversé un gros coup de mou.
Il a fait mettre un triplé, hein, à la fin.
Ouais, c'est bien, mais il se réveille contre nous à chaque fois. Mais sinon, il était invisible, hein, tout le début de saison, il a été invisible. Bon, bref, il est revenu des Jeux Olympiques. Après, t'as un Brésilien, t'as ci, t'as ça. Ils ont Franck Sergio là aussi à la fin du match. Contre cette équipe, prendre 2 buts, c'est ça que je trouve inadmissible. Après, bon, vu ta question, comment marquer plus de buts? Ben, on pensait que Ramirez, il était là pour ça. Moi, je pense que j'ai bien peur que ce soit un Gervinho, quoi. Je veux pas faire peur à tout le monde, mais. Recruter le dernier jour.
Jorginho,
pardon.
Pas Gervinho.
Non, pardon. Jorginho.
J'aurais bien aimé l'avoir, Gervinho.
Oui, pareil.
Non, je veux parler de celui qui était arrivé, pareil, au dernier jour du mercato.
À la place de Dolor.
Le dernier jour du mercato, souvent, c'est le jour du président. Là, a priori, donc c'est le cas. C'est les présidents qui ont sorti le carnet de chèques. Il restait pas beaucoup d'argent. Et alors, j'espère me tromper. Mais ce que j'ai vu, au niveau des ballons touchés, au niveau des remises, au niveau, je sais pas, du caractère aussi, parce que c'est ton premier match à Geoffroy Guichard, prends un peu la balle, enfin, je sais pas, tente quelque chose. Ok, c'est un joueur de surface, mais il était souvent en plus au deuxième poteau. Alors, il faut mieux passer devant le défenseur quand t'es un joueur de surface. C'est dur de juger sur un match, mais moi, ouais, je trouve que... Et on le voit. Hein,
il a touché 11 fois la balle. C'est illogique qu'il soit aussi peu servi aussi. Donc, on n'est pas habitué à jouer avec un œuf. Ça s'apprend. Hein, ça ne va pas venir du jour au lendemain. Hein. Donc, à un moment donné, il faut trouver des solutions. Pour répondre à ta question, Eric, moi, c'est l'entrée de jeu de Aouchiche qui devrait faire la différence à ce moment-là. Aouchiche ou Boudbouze. Il faut un milieu de terrain offensif qui puisse faire la différence dans la partie où il faut, c'est-à-dire le milieu de terrain avant les attaquants qui puissent les servir. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu de milieu offensif avec l'entrée de notre Uruguayen Ramirez. Ça, c'est dommage. Et effectivement, il a l'air juste physiquement, mais encore faut lui donner des ballons. Il n'a pas eu de ballon. Il en a eu touché 11, il a eu 6. 6 sur 90 minutes, sur le temps de jeu, il fait 65 minutes, je crois. C'est beaucoup trop peu.
Par contre, j'ai trouvé Amouma et Kazri beaucoup plus libres que d'habitude. C'est-à-dire que comme ils fixent la défense centrale, du coup, les deux là, ils ont eu plein de choses. Mais à un moment, ils les ont oubliés.
C'est le B.A.B.A. Quand tu attaques à trois attaquants, automatiquement, t'as des libertés sur les couloirs. Mais regarde la qualité des centres. Tu l'as dit tout à l'heure, Eric, il y a eu 32 centres. Sur les 32 centres, il y en a 6 qui arrivent.
Bah oui.
6 qui arrivent. C'est là. Et je parle des centres et des coups de pied arrêtés. Hein. Les centres sur coups de pied arrêtés, c'est catastrophique. À ce niveau-là, c'est pas tenable.
Celui d'Aouchiche quand il est rentré au quatrième poteau.
Exactement. C'est pour ça que Aouchiche, pour moi, c'est lui qui pourrait, en fin de compte, changer la donne. Parce que si tu as un numéro 10 et qui peut faire la différence, qui peut donner la balle à ses attaquants, à son avant-centre, là, ça peut changer complètement la donne. Par contre, est-ce qu'il a les épaules? Est-ce qu'il a la technique? Là, on se pose des vraies questions. Allez, c'est une émission Rock'n'Foot. On va passer le premier titre musical. Ça sera, alors j'hésite. Ça sera du Tata Poum. Ça fait quand même... vous me connaissez, hein, cher auditeur. Moi, c'est le Tata Poum. Ça sera un groupe girondin, bordelais. Yoko Ono. Et le titre, Chem. Quelle honte. Avec le titre Chem, les Girondins. Voilà, vous êtes bien dans l'émission Coup de tête. Et on va passer tout de suite au coup de puelle.
Qu'est-ce que tu veux, toi, hein? Tu veux un coup de pelle?
Alors, comme à Montpellier, Claude Puel a calqué son dispositif sur celui de l'adversaire. Au 4-2-3-1 a succédé un 3-4-3, avec devant Green une arrière-garde composée de Nadé, Moukoudi et Esso, avec Kolo et Bouanga dans les couloirs. Au milieu de terrain, le coach des Verts a décidé de laisser sur le banc son capitaine, Camara, en méforme, et a fait démarrer devant, comme on l'entendait, et l'espérait Ramirez. Alors, avant de nous attarder sur la prestation des joueurs, qu'est-ce que vous avez pensé de cette défense à 3? Est-ce que vous n'auriez pas préféré, dans ce système, que Kolo joue dans l'axe? Donc, ça aurait libéré la place en couloir gauche pour Trauco. Le Péruvien a fait son entrée dans les 25 dernières minutes. Est-ce que vous considérez que le choix fort de ne pas titulariser Camara, c'est une manière, quelque part, de rappeler que le coach ne s'embarrasse pas des statuts?
Ouais, pour répondre, moi j'étais scandalisé par cette défense à 3. C'est aussi simple que ça, surtout avec aucun latéral. Et quand j'ai vu que Trauco était sur le banc et en plus qu'il est rentré, franchement je trouve ça indécent de commencer un match à 3 défenseurs centraux. Avec le jeune Nadé qui est passé au travers autant que Moukoudi. Il n'a pas été bon du tout. Il est sorti au bout d'une vingtaine de minutes, hein, c'est ça?
Juste avant la mi-temps. D'ailleurs, l'arbitre, là, c'est de manière incroyable, les mecs jouent à 10,
ouais, 40,
le temps que Camara revienne.
Ouais.
Donc, suite à un choc. Que ce,
non, mais...
Après ce moment-là, Camara a trouvé sa place au milieu de terrain. C'est Gourna qui est descendu en charnière centrale.
Je trouve ça scandaleux parce qu'à chaque fois, il change la composition, il change le schéma tactique. Eric, la semaine dernière, tu disais, tu parlais de laboratoire. Et cette impression-là que ça donne de match en match. En fin de compte, il fait des essais. C'est jamais la même équipe qui est concernée. Et puis une fois tu défends un 4, une fois tu défends un A3, c'est pas les mêmes 3, pas les mêmes 4, c'est incompréhensible. Et quand tu vois Colo, le match de Colo, mais c'est catastrophique. Catastrophique. Le premier but, pour moi, il est pour lui,
hein. Il y a un espace
il
tellement
est
libre
pour lui. J'avais vu des matchs de jeunes gamins à l'après-midi où on leur dit absolument ne mets pas ça dans l'axe, alors qu'il était sur le côté, tu vas chercher devant. Non, et lui, il la met dans l'axe et automatiquement, hop, et ça part en 2-3 mouvements et il y a une occasion et il y a le but, le premier but du Coréen. C'est aberrant de voir ça. C'est lacune défensive, mais c'est pas défensif, quoi, parce qu'il est sur le côté. Donc, j'ai vraiment du mal avec ce schéma tactique, même si j'aime bien, moi, de temps en temps, commencer un match à 3 défenseurs, mais tu perdures dans le temps. Mais tu fais pas un essai comme ça sur un match aussi important entre le 19e et le 20e.
Ou t'enlèves Nadé, tu mets Colo dans l'axe et Trauco à gauche, dans le couloir.
Exactement. Bah, Trauco, déjà, je le mets titulaire. C'est évident. Et puis, avec la rentrée qu'il fait, dis, mais pourquoi il l'a pas fait jouer, quoi.
En fait, 3-5-2, c'est quand même rare qu'on joue comme ça. Enfin, Saint-Etienne, à part contre les grosses équipes, j'ai le souvenir d'avoir vu Saint-Etienne jouer contre Lyon comme ça.
3-4-3 plutôt.
En plus, 3-4-3, c'est pas pareil, mais défense à 3, je veux dire, un peu bétonné. Ouais. C'est rare. Là, je pense que, en fait, Claude Puel, il cherche je dirais pas que c'est un laboratoire. En fait, il cherche quelque chose qui marche pour le garder. Mais le problème, c'est que rien ne marche. On a bien vu la sortie de Camara, c'est quand même une preuve que rien ne marche. C'est-à-dire que même le meilleur joueur de l'année dernière, tu le mets dans...
Non.
Enfin, le meilleur joueur, celui qu'on a
non.
Mis dans les, à chaque fois dans les...
Tu l'as mis. Oh, t'étais d'accord avec nous, la dernière émission.
Ouais.
L'an passé, le joueur le plus régulier de l'essai, ça
veut dire... J'exagère sur... C'est pas le meilleur.
C'est son rôle, c'est un milieu défensif, mais franchement, et tu le vois rentrer...
Cette année, il est à côté de ses pompes.
Complètement.
On est d'accord. Mais je dirais pas que c'est le meilleur. Ok, t'as raison. Bon, un bon joueur. Cette année, il n'y a rien qui marche. Donc en fait, Claude Puel, il essaye de trouver un schéma qui marche, mais franchement, pour le garder. Parce que je ne sais pas si vous avez vu les matchs qui arrivent. Il vaut mieux avoir une petite stabilité et pouvoir compter sur quelque chose de concret. À Monaco et contre Nice, à mon avis, il va refaire pareil. C'est pour ça qu'il l'a mis contre Bordeaux, ce 3-5-2. Après, il faut se rappeler que ça vient de la blessure de Masson et de la jeunesse de Nokwe, parce que Nokwe, il peut pas, a priori, la rentrée qu'il a fait au dernier match, elle était inquiétante. Donc, en fait, voilà. Après, je suis d'accord avec vous sur Trauco. Trauco, il aurait été meilleur, mais comment le savoir? Trauco, il est parti deux fois en Amérique du Sud depuis déjà. Il n'est pas là depuis. La saison n'a pas commencé depuis longtemps et on peut donner à Puel le crédit de l'autoriser.
Alors,
le
tu
club.
Ne l'es pas sur le banc.
Non, mais là, sur ce coup-là, il aurait dû le mettre. Mais par contre, l'année dernière, des fois, on a vu Trauco ne pas savoir défendre et le début de saison que fait Colo, il est plutôt bon. Donc, au coup d'envoi.
Il est pas bon. Oui. Il a fait deux matchs corrects avec une passe d'ess à Lens.
Et un but.
Pas en piston gauche, Olivier.
À Marseille et à Lens.
Ouais.
Colo, je suis d'accord avec toi, mais pas en piston gauche.
Oui, mais voilà. Après, je pense que. Bon, mais c'est juste pour trouver une explication, pour éviter que vous le preniez pour le dernier des neuneux, Claude Puel. Parce que il est après, il mourira avec ses idées, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr.
C'est certain.
Mais par contre.
Faudrait pas que ce soit le fossoyeur.
Tu peux pas. Enfin, voilà, on analyse toujours après, tu peux pas savoir. Trauco, à des moments, il s'oubliait carrément. Offensivement, c'est sûr qu'il est meilleur que Colo. Défensivement, je sais pas. Enfin bon. Et donc, ouais, 3-5-2, à mon avis, les prochains matchs vont être comme ça. Moi, ce que tu dis sur Moukoudi, sur Nadé et sur Kolo, même sur le premier but, Moukoudi, il se fait embarquer par Wang. Il a une naïveté. Il se retrouve. Il est pratiquement. Il est plus loin que la ligne. Il est. En plus, il est libéraux dans le poste à 3. Donc c'est lui qui doit garder. Il se retrouve. Il dépasse le milieu de terrain et derrière, c'est les Champs-Élysées.
Les Champs-Élysées parce que c'est une défense à 3.
Mais oui, mais parce qu'il se fait aspirer. Wang est malin et lui, comme un naïf, il se fait aspirer.
Oui, c'est sûr, tu ne l'aurais pas fait à Kasten Dutch, ça.
Ouais. Non.
C'est lui qui est l'origine, malheureusement, du deuxième but.
Et alors, le deuxième but, tu disais, les jeunes, on leur dit de ne pas remettre. Alors, lui, non seulement il met dans l'axe, il met dans les pieds de l'adversaire. Et en plus, il y a personne à côté de lui. On est en situation de pouvoir marquer, de faire le forcing pour marquer. Et lui, voilà, on est en infériorité numéraire. Et lui, il lui donne numérique. La balle à l'attaquant. Donc, flow 3-5-2, moi, j'ai pas trop aimé. L'équipe de France, ils ont mis plusieurs matchs. Et pourtant, on peut dire que c'est des joueurs intelligents. Et pourtant, Deschamps, je pense qu'il avait. Non, mais bah, ils ont un QI football. Je dis pas qu'ils sont intelligents dans la vie. Je dis qu'ils ont un QI football normalement un peu assez développé s'ils sont là. Et ben eux, ils ont pas réussi à jouer en 3-5-2 pendant quelques matchs. Ils ont fait un bon match en 3-5-2. Donc c'est un système. Claude Puel, ouais, c'est vrai qu'il est là pour le coup. Vous avez raison. Y aller comme ça sur un match sans le préparer, sans avoir joué un seul match de préparation comme ça, c'est sûr que c'est difficile.
Il fait des petites expériences.
Mais pour le garder, si ça marche. Mais je pense qu'il Il espère qu'il va y avoir une étincelle et que ça va de nouveau redémarrer. Et cette étincelle, c'est quand tu peux pas rester toujours pareil. Tu peux pas laisser Camara, qui met plus un pied devant l'autre, par exemple.
Ah mais Camara, pour moi, il a pas du tout le niveau là. Mais vraiment pas.
Il veut le renvoyer à Laval, Marco.
Qui?
Camara.
Parce qu'il vient de Laval.
Il avait été prêté à Laval.
Ah, je savais pas.
Si, bien sûr.
C'est le millénaire qui va être content.
On en vient aux individualités, du coup, à moins que vous voyez d'autres choses à rajouter. Vous voulez dire un mot sur l'arbitrage, peut-être pas ? On a parlé du pénalty tout à l'heure. Tamouma.
Je l'ai dit tout à l'heure, ouais. Mais c'est. Alors, ici, il faut savoir qu'avec Gauthier, c'est 6 matchs consécutifs qu'il arbitre.
Sans carnet, Marco.
sans victoire pour les Verts. Hein. Non, mais franchement, c'est scandaleux. Le coup du pénalty, c'est scandaleux.
En plus, vous étiez à côté, donc je vous fais confiance.
Moi, j'étais devant. Moi, j'avais des conditions pas particulières.
Il avait une caméra.
Après, la caméra qui était en panne et puis les trompes d'eau.
Mais le défenseur bordelais ne joue jamais la balle et on voit bien qu'il le crochette. Voilà, après, c'est ce que je disais au téléphone tout à l'heure, c'est que M. Gauthier, il doit connaître Kadri, il doit connaître Amouma. Oh, bah, c'est Amouma qui tombe. Bon, bah, voilà, il n'y a pas. Mm. Non, mais. Et la VAR, elle fait quoi?
Mais est-ce que Amouma, il force pas un petit peu? Parce
non,
que franchement,
qu'il force.
Non mais
il y a faute.
Bah en fait, il y a la jambe devant. Mais Amouma, il saute par-dessus la jambe. Va t'en parler dedans. On verra qu'il y a contact. T'as envie de lui dire.
Mais il y a contact. Il touche pas. Le défenseur
il touche pas le ballon, mais il touche pas vraiment Amouma aussi.
Il touche qui? Green.
Mais Amouma se jette au-dessus de lui pour bien montrer qu'il y a l'adversaire, qui l'empêche de passer. Je trouve, hein. Mais bon.
Et il a pris un carton jaune.
Et il a pris un carton. Alors, ça c'est beau, ça aussi.
Mais il peut siffler. Il peut siffler 100 fois pénalty. Hein.
Monsieur Gauthier, là-dessus,
il nous a enflé.
Après, le pénalty, dit pénalty dit pas but. Mais l'arbitrage du match a été scandaleux. Une fois de plus,
mais tu vois, ça s'équilibre. Contre Lorient, on nous en a donné un, il n'était pas non plus flagrant. Donc ça, je crois que ça s'équilibre au final, mais bon.
Et après, qu'est-ce qu'il a fait encore une fois ? J'en ai parlé tout à l'heure pour faire rentrer Camara. Mmh. C'est quoi le truc là ?
Donc, ouais, ouais,
c'est les verts à 10.
Mais c'est l'arbitre qui.
Oui, mais
l'arbitre
pourquoi,
qui.
Pourquoi
j'ai pas compris non plus.
Si, il voulait savoir si Sow avait une commotion. Et dans ce cas-là, ça faisait un joueur de plus. Au lieu de faire 5 changements, ça serait monté à 6. Ouais. C'est pour ça que ça a mis du temps, d'après ce que j'ai compris. Voilà, cher Eric.
J'ai pas compris. Pour les changements, c'est le premier à être rentré, Camara.
Il remplace Sow.
C'est le premier changement.
Oui. Mais ils voulaient savoir s'ils allaient partir sur 5 ou sur 6 changements à ce moment-là.
Bon.
Voilà ce que j'ai
d'accord
cru comprendre.
Mais puis elle était fou. Hein. Et c'est vrai que tu finis à... Tu restes 3... 2 minutes à 10. Tu restes 2 minutes à 10.
Plus que ça. Ça semble une éternité pour nous. Ouais. Donc on en vient aux individualités. Donc le fameux top flop. Il n'y a pas beaucoup de top. Kazri sûrement. Qui mérite une distinction particulière chez les Verts.
Ouais, Neyou.
Et Neyou qui, ouais, qui a fait pas forcément un meilleur match la dernière fois. Il n'y a pas de mal, mais bon. Qui ouais. revient bien.
Oui, voilà, là on l'a vu un petit peu plus à son aise et porter le ballon vers l'avant.
Il a fait une belle reprise aussi.
Mm. Ouais, en première mi-temps, ouais. Mm. En première mi-temps, mais un peu trop dans l'axe à mon goût, mais effectivement c'était assez intéressant. Mais c'est les seuls qui sortent du lot. Les autres, ils n'ont pas été au niveau. Et puis si, l'entrée de Trauco, qui a été plutôt pas mal.
Ouais, mais... Oui, c'est vrai. Pas plus de top que ça, non, c'est...
Et alors parmi les flops,
bah tous les autres,
mais d'autres, certains en particulier, Moukoudi sûrement.
Bah, après, je vous l'avais dit la semaine dernière.
Moukoudi, j'ai sorti des stats. Gourdin, et puis Colo, Bouanga, trop défensif à mon goût, mais ça c'est le schéma tactique imposé par Puel.
Moukoudi, Ramirez et puis Colo sûrement.
Ouais. Bah Ramirez, non mais il n'a pas touché de ballon, on lui donne pas le ballon. Donc...
Ah, mais il a fait des appels, il a essayé quelques déviations, ouais. Mais après, c'est vrai qu'il n'est pas servi, ça avait déjà été le cas à Montpellier, mais il ne faut pas que ça perdure, quoi.
Bah oui, ça s'apprend de jouer.
Et puis Nordin, on a vu ses limites aussi, là. Hein. Là, franchement, pour un joker qui rentre pour faire la différence à la fin, alors il est rapide, mais c'est tout.
Ok, on s'arrête là. Qu'est-ce qu'on fait deuxième titre musical. Ouais. Ça va annoncer la suite, cher auditeur. C'est une petite surprise. Kim Wilde avec le titre Cambodia. C'était le moment ou jamais pour le passer. Alors pourquoi, cher auditeur, je ne sais pas si vous avez saisi l'allusion, c'est par rapport à l'actualité en dehors du terrain, c'est-à-dire le prince du Cambodge a fait une proposition pour acheter le club de la SSE.
Ouais, très joli titre qui nous rappelle des souvenirs. Mmh. Donc oui, on est obligé de dire un mot sur le rachat du club puisque les choses semblent sérieusement s'accélérer. Alors après le fonds d'investissement américain Terrapin, Norodom Ravichak, membre éminent de la famille royale du Cambodge, puisqu'il paraît qu'il ne faut pas dire prince héritier, j'ai appris ça tout à l'heure. Donc
ah bon?
Non.
Il a un joli prénom.
C'est ça.
C'est pas sûr que ce soit lui qui soit.
Donc, d'accord. Il aurait déposé une lettre de garantie bancaire de 100 millions d'euros, là, la condition sine qua non, pour accéder à la data room, selon le cahier des charges établi par KPMG, le cabinet anglo-néerlandais d'audit et de conseil chargé d'éplucher les différentes candidatures. Le petit-fils du roi Sihanouk aurait les faveurs de Bernard Cayasso, mais pas celle de Roland Romeyer. Les deux sont rarement d'accord. Roland Romeyer, lui, milite pour le projet local porté par Olivier Markarian, soutenu par une puissante société financière luxembourgeoise. La traditionnelle réunion hebdomadaire du jeudi avec KPMG a été avancée à ce mardi matin. On peut y voir un signe. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Quel est votre avis à propos de ce nouvel éventuel repreneur?
Ouais, ça permet de faire un peu de géopolitique, moi ça me parle, parce que le Cambodge, voilà, je savais pas du tout, je me suis renseigné un petit peu. Alors en fait, ça reste un pays, c'est quand même un repreneur exotique et tellement loin de la réalité de Saint-Étienne qu'on a du mal quand même à imaginer quelqu'un de sérieux avec des hommes qui arriverait avec des hommes sur le terrain, parce que c'est tellement un panier de crabes quand même, faut le dire, le Saint-Étienne.
Le crabe au passe d'or.
Non mais que le gars, ok, il a l'argent, il a de la volonté, mais quand il va voir la data room, à l'intérieur de la data room, je pense qu'il va prendre peur, le gars. La data room, à mon avis, elle a de quoi faire flipper. Parce que, il y a déjà le troisième luron, dont t'as pas parlé, qui a des parts, le dénommé
Carvalho.
Il y a aussi des choses qui sont pas très claires au niveau du partage des, voilà, qui décide, qui va dire oui, qui va, enfin voilà. Et puis aussi la situation sportive du club. Bon, bref. Donc, je sais pas. Je vois. Ça me fait penser un peu quand à Lens, tu vois, il y avait eu un dirigeant étranger comme
Mamadov.
Ça. Mamadov, ouais. Enfin, tellement loin du monde du foot que c'est quand même un métier, quoi. Loïc Perrin est en train de passer ses diplômes pour ça, pour être directeur sportif. Mais même dirigeant, même patron comme ça, même président, c'est un vrai métier. Romeyer, ça fait longtemps et il fait encore plein d'erreurs. C'est un vrai métier, donc je sais pas, c'est tellement loin de tout ça que j'ai du mal à y croire. Donc j'aurais plutôt tendance à aller vers quelque chose de local. Hein. Malheureusement, parce que 100 millions, ça fait rêver.
Voilà, c'est une offre importante puisque la valeur du club serait autour de 60-70 millions. Hein. Donc là, quand on est quand même à plus de 30 millions de plus, moi, 100 millions, ça se refuse pas, non?
Ah non, mais ouais, peut-être qu'ils vont pas refuser, mais la chute, l'atterrissage va être difficile.
De toute façon,
à mon avis.
Pour survivre dans le football professionnel, maintenant, il faut du Grisby, hein, il faut de la thune. On est obligé de passer par ça. Et malheureusement, hein, foot business oblige, si tu veux rester dans l'élite et jouer quelque chose, il faut trouver des repreneurs. Et puis le contexte actuel, la période Covid a fait du mal à Saint-Étienne. Le média pro a fait aussi pas mal de mal à certains clubs européens. Je rappelle qu'il y a des clubs italiens qui ont disparu. Hein. Et il y a un club allemand aussi qui est en train de disparaître. Je ne sais plus lequel c'est. J'essaierai de retrouver ça, cher auditeur, pour la prochaine fois. Mais il y a des clubs qui meurent et des vieux clubs connus comme Saint-Étienne à l'étranger. Donc voilà, à un moment donné, il faut du flouze.
Et pour cela, bah, on serait prêt à accepter cette somme-là, non ?
Après, on n'est pas sûr de la somme, hein, c'est 100 millions, c'est juste pour la garantie en fait, qui va être déposée.
Ouais.
Et après, il est même question qu'il y ait aussi des fonds chinois qui interviennent dans cette histoire, de manière à ce que le repreneur donc, puisse arriver au club le plus vite possible, de manière à ce qu'on soit actif au niveau du marché des transferts.
Sur Coup de Tête, l'émission Rock'n'Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts, en mode confiné. Et oui, nous sommes en mode confiné pour revenir sur cette défaite lors de la 10e journée de championnat pour le compte du 121e derby, défaite 2 buts à 1. Et oui, avec moi, mais chacun de notre côté, puisqu'en mode confiné, on respecte tout. AFM 43. Salut à toi, Eric.
Salut à toutes et à tous.
Salut à toi, Olivier.
Salut, Marco. Salut à tous.
Donc, on va donc analyser cette défaite lacrymale de buts à 1 longuement lors de cette émission. Pardon. Bien sûr, on passera des morceaux musicaux. On reviendra aussi avec les coups de cœur, les coups de tête et bien sûr l'agenda. Voilà, c'est le programme de cette émission un peu spéciale.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end.
Eric, on t'écoute.
Pour ce premier derby en terre ennemie à huis clos, Claude Puel a choisi d'aligner la composition suivante. Dans les buts, capitaine Jesse Moulin. En charnière centrale, Colodzie Jacques avec Moukoudi. Sur les côtés à gauche, Traouko, à droite, Camara. Au milieu de terrain, à la récupération, Neyou et Gourna, qui fêtaient sa première titularisation. En position offensive, côté droit, Youssouf, côté gauche, Bouanga et Aouchiche en soutien de Abi. C'est l'ASS qui ouvre le score à 5 minutes de la pause par Bouanga sur un tir à angle fermé, un but finalement attribué à Lopez contre son camp, le gardien lyonnais ayant été le dernier à toucher le ballon. 1-0 à la pause pour les Stéphanois. En seconde période, les Lyonnais égalisent par Kadewere. Peu après son entrée en jeu, un but suite à une combinaison sur coup franc. Puis 10 minutes plus tard, c'est le même Kadewere qui donne l'avantage aux Lyonnais, un but qui ressemble étrangement au but stéphanois. À 2 minutes de la fin, les Verts ont la possibilité d'égaliser sur pénalty, accordé après intervention de la VAR. Mais malheureusement, Bonga manque le cadre. 2-1 donc pour Lyon dans ce 121e derby.
Merci Eric, merci pour ce résumé concis. Oui, on va revenir donc sur cette rencontre qui, ben, moi j'étais vraiment surpris, une belle rencontre de football, on a vu du foot et même côté vert.
Exactement, et c'est par là que je voulais commencer Marco, tout simplement en vous posant la question, ces verts, ils ont quand même été mal récompensés, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ?
Oui, tout à fait, puisque pendant une heure de jeu, on n'a vu qu'une seule équipe sur le terrain, c'était nos petits protégés verts qui ont mené tous les débats pendant une mi-temps et un quart d'heure. Et il a fallu donc ce coup franc plutôt bien tiré, bien mené des Lyonnais qui reviennent dans la partie. Et voilà, ça les a boostés, mais... Les Verts étaient omniprésents et en plus de ça, on a la balle d'égalisation avec ce pénalty de Bouanga qui a tiré à côté. Donc oui, on peut estimer qu'on est... Bah, c'est regrettable de revenir avec 0 points après un si bon match de la part de nos petits Verts.
Eric ?
Oui, on a retrouvé... Tout à fait, je partage cet avis-là. On a retrouvé une équipe stéphanoise qui a imprimé le rythme d'entrée, qui a exercé un pressing haut, comme on avait l'habitude de le voir lors des premières journées. On a retrouvé ces vertus-là du côté de l'équipe stéphanoise, avec une première occasion, un premier tir cadré au bout d'une minute trente, c'est tout dire. Quand on se rappelle que lors des deux dernières rencontres, à Metz et contre Montpellier, on n'avait pas eu un seul tir cadré du match. Et puis après, on a une équipe verte qui a fait une belle prestation durant toute la partie. On a assisté à un match très plaisant, avec beaucoup d'occasions de part et d'autre. Un tir sur le poteau, début refusé, on ne s'est pas ennuyé. Il y a eu pas mal de suspense jusqu'à la fin, avec malheureusement l'échec sur pénalty de Bouanga, qui coûte un point qui aurait été amplement mérité pour les Stéphanois.
Alors, vraiment pas récompensé.
Exactement. Alors, vous avez souligné de tous les deux, notamment la première mi-temps. Qu'est-ce qui a changé par rapport à d'habitude Qu'est-ce qu'on a retrouvé côté stéphanois, si on rentre un peu plus dans le détail?
C'est incompréhensible. Assister à trois matchs, les trois derniers matchs des Verts, où c'était indigent, et d'un coup, ben voilà, on a vu de l'envie, on a eu du jeu, on a eu un milieu de terrain qui a apporté énormément, alors que c'était plutôt vraiment timide lors des dernières rencontres. Et ben là, d'un coup, et puis ce pressing haut qu'on n'avait pas vu depuis la victoire au Stade Vélodrome, qui était efficace, qui a énormément gêné les Rhodaniens à l'entame de la rencontre, et puis même pendant une mi-temps, puisqu'ils étaient presque inexistants. Hein.
Ouais, on se rappelle que lors des derniers matchs, on a concédé un but rapidement à chaque fois, et puis on n'a jamais eu les capacités à revenir. Et là, au contraire, eh ben, d'entrée de jeu, on s'est porté dans le camp adverse, on a maintenu le ballon grâce à un milieu de terrain qui était conquérant, à mon sens. Et puis, on a ouvert le score de manière très logique. Après, malheureusement, les Lyonnais sont revenus dans la partie, mais même à 1-2, on n'a pas baissé les bras, on a continué à pousser, puis on aurait mérité d'égaliser sans ce pénalty fatal en fin de match.
On a eu des occasions, mais tout au long du match. Ça nous est pas arrivé depuis le match face à Marseille. On n'arrivait pas à cadrer un tir, et là, d'un coup, c'est incompréhensible. Quel contraste avec le jeu développé pendant un mois. J'ai du mal à la saisir et à l'expliquer. Hein.
À croire que l'équipe choisit ses matchs.
Ou alors,
Le penser.
ou alors on peut aussi dire, justement, vous allez me dire si vous partagez cet avis, qu'on a vu justement qu'il y avait beaucoup de joueurs stéphanois formés au club et qui avaient cet esprit derby. Est-ce que ce n'est pas tout simplement que les Stéphanois, ils ont eu l'esprit derby parce qu'ils ont participé dans les catégories de jeunes à ces rencontres, peut-être?
Ouais, peut-être qu'on peut l'expliquer comme ça.
Contrairement aux Lyonnais.
Ouais, après, tu sais, sur le terrain, il y a combien de joueurs? Il y en a quatre, Moulin, Camara, Gournat et Habib, qui ont été formés à l'ASS et qui ont ces vertus-là du derby. Non,
Bah.
après, je pense qu'ils ont la capacité de se transcender sur les grands rendez-vous, quand on les a vus en finale de Coupe de France, et à Marseille, au Stade Vélodrome, où on n'est pas gagné depuis une quarantaine d'années. Puis là, ce match qu'on a failli remporter pour la première fois au Groupama Stadium. Donc, c'est vrai que c'est assez incompréhensible d'avoir assisté à une bouillie de football lors des dernières rencontres, et puis là, de trouver une équipe totalement métamorphosée.
Alors, on verra justement où est-ce qu'ils ont raté le coche, ces Stéphanois peut-être, parce qu'ils étaient, c'est vrai, à deux doigts de vraiment faire un exploit, première victoire du côté de Décines. Mais en attendant, on va respecter notre indicatif d'émission, Rock'n Foot, Marco.
Ouais, je vais vous passer. Alors, c'était le match à Lyon, mais vu le scénario du match, j'ai envie de vous passer donc un artiste plutôt stéphanois et une expression gaga de Saint-Étienne avec Bosen. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. Bosen de Z Dude Pavarotti, le rappeur stéphanois qui monte, qui monte.
Y'a pas 10 grammes par semaine, salope, genre des mitraillettes. J'ai un EI, j'ai un E-Love, genre des robots de merde, c'est pas Woodstock. J'viens juste de te perdre, j'veux des boussoles. Et d'autres personnes et une remarque, j'mettrai tout dedans, j'ai des doutes en salle d'attente. La roue tue et l'amour tourne. Un miracle, c'est un coup de foudre, un mirage, c'est un coup de coude. J'suis 10 barres, dans un corps doux, j'veux d'image, dans un kangou. Hey, suce-moi, j'ai un cordon. Hey, demain j'aurai plus le goût. Hey, demain j'serai plus bon. Prends tes formes, des feuilles et puis j'arrête. Dans l'usine y'a pire que la vie de barrette. Trouve tes gosses et peinte la vie en rose. Allô, vite viens voir dans la barque et hop. Moi ma pierre fait pas de sable, yeah. Le serpent se mord la canne et hop. Il attend que tout ça se passe à mort. Il attend qu'on le ramasse, yeah. J'pourrais pas tourner la page, yeah. Paradis c'était plus simple, yeah. J'ai la porte plus la cage, yeah. J'ai la clope et la claque, yeah. J'veux pas de fête, j'veux un plus un, yeah. J'mets la tête dans un coussin, yeah. C'est tout noir, tout va mal, yeah. Y'a plus rien, tout va bien. Hey, hey, hey. Bruxelles, je marche sur la mer. Putain, j'ai ma tête d'enfant. Putain, voilà, je regrette rien et je vais vivre longtemps. Bruxelles, je marche sur la mer. Putain, j'ai ma tête d'enfant. Putain, voilà, je regrette rien et je vais vivre longtemps. Je suis un petit gars. Je vois des grandes machines, je prends l'huile et le lendemain je filme. Si la mer s'ouvre, je vais leur vendre ma tire. Je veux 12-0, je suis un grand magique, je suis fer à mort, je veux pas de verre d'eau. J'ai le cœur devant, les yeux vers le dos. Des grosses avances, des grosses lettres. Quand je l'ouvre la ferme, je suis le même. Bitch, regarde-moi, je suis un soleil et tu m'aimeras comme un problème. Je suis dans le ventre de la bête encore. Si je suis froid, mets ta veste, enfin bref. Mille costumes et la même rose, ouais. Je range mes ailes, je mets mes épaules même. Dose d'alcool, faut que des réponses, eh, allô. Donne-moi tout, j'ai la forme. Je suis dans le fond du bar, je fais des promesses. Et qu'on me sorte de là sans la mort. Pour changer d'endroit, je prends des comètes. Elle est belle, la fille là-bas, je t'aime. Dans deux doigts, c'est une boulette. Et ben quoi, ça se lit par la fenêtre. J'ai cette colline, je fais mes poèmes. On se retrouve, mes amis, bientôt. J'ai mis la clim sur mon petit radeau. Vert à Malfi avec des filles de Palerme. Des éclats de rire et du rouge à lèvres. J'aime ma glaise, je prends mon fusain. Je mets la tête dans un coussin. C'est tout noir, tout va mal. Y'a plus rien, tout va bien. Hey, hey, Bruxelles, j'marche sur la mer. Putain, j'ai ma tête dans le fond. Putain, voilà, j'regrette rien et j'veux. Bruxelles, j'marche sur la mer. Putain, j'ai ma tête dans le fond. Putain, voilà, j'regrette rien et j'veux. Bruxelles, je marche sur la mer. Putain, j'ai ma tête d'enfant. Putain, voilà, je regrette rien et je vais vivre longtemps.
Bossaigne de Zedjun Pavarotti. Voilà pour le retour donc de cette défaite de 2-1 en terre lyonnaise pour le compte de la 10e journée de championnat.
Voilà, et on revient donc à l'analyse de cette rencontre. Je le disais tout à l'heure, on a vu une belle première mi-temps et notamment grâce peut-être au choix de Claude Puel. Alors on a d'habitude tendance à montrer du doigt les coups de Puel. Ici, je les rappelle, hein, donc nouveau système en 4-4-2 avec deux arrières latéraux nouveaux, hein, Camara à droite et Trauco à gauche. Au milieu de terrain, la première titularisation de Gourna. Et puis aussi, on peut dire l'absence d'Amouma et de Kazri au coup d'envoi avec la titularisation de Charlaby en pointe. Tout ça, est-ce que ça vient aussi de là, hein, est-ce que dans tout ce que j'ai dit, il y a vraiment quelque chose qui a fait électrochoc?
Bah, les latéraux, on peut être surpris. Moi, je trouve que c'est un super choix d'avoir placé Camara latéral droit, de remettre Trauco au côté gauche par rapport à Silva, et puis ne pas mettre Mouefek d'entrée en latéral. Donc, je trouve ça plutôt bien parce que Mouefek, pour moi, c'est un milieu et non un latéral. Alors que Camara, c'est plus un milieu, mais là, on a vu que bah, il était à son aise sur le couloir droit. Le milieu de terrain, s'il est à peu près le même que la semaine précédente face à Montpellier, sauf que là, on l'a vu bah, à son avantage. Et puis, Charlaby, seul en pointe, pourquoi pas. Et il a montré de très bonnes choses, Abby, avec le seul en pointe, avec Bouanga qui pouvait le servir. Il a marqué de la tête, le but est malheureusement refusé, mais c'était un beau but de la tête. Il y a juste quelque chose, un fait de jeu, lorsque donc Trauco le lance tout seul dans l'axe, il fait un bon contrôle et il peut défier Lopez, mais malheureusement il est rattrapé par le défenseur lyonnais. Et là, je trouve qu'il manque de rapidité, manque de vitesse, et à son âge, ça me pose un peu souci. Mais ouais, je trouve que la composition de Puel, à part l'absence d'Amouma, est plutôt cohérente.
Alors, qu'est-ce que tu en penses, Eric ? On avait dit qu'il y avait trop de changements de la part du Panois, et bon, il faut, faut quand même constater que le changement, là, il avait du bon.
C'est vrai, les choix de Claude Puel ont été judicieux. Il a titularisé pour la première fois au milieu de terrain le petit Gournat. C'était, on pouvait s'y attendre. Puis on l'espérait de notre côté. Hein. Lors de la précédente émission, on en avait parlé. Les deux seules surprises, c'est pour moi l'absence d'Amouma surtout, et puis éventuellement celle de Kazri. Donc j'étais surpris de la titularisation de Youssouf. Et puis devant Charles Habib, un peu moins, puisqu'il avait déjà fait l'an passé, rappelez-vous, pour le derby qui avait coïncidé avec son premier match l'an passé de Claude Puel. Il avait aligné Habib devant avec Diony. Donc là, les surprises, donc la titularisation de Gournat, Youssouf sur le côté droit, mais qui était plus qu'à son avantage aujourd'hui. Puis Camara juste derrière lui, donc en tant que latéral, qui a fait également un match très abouti pour moi. Donc les choix de Puel ont été payants. Vraiment, il faut féliciter la prestation d'ensemble de l'équipe.
Avec beaucoup de jeunes. C'est-à-dire que sur le terrain, si on enlève Amouma et Kazri, la moyenne d'âge est quand même énorme. Alors est-ce que justement, c'est pas ce qui a coûté aussi, le manque d'expérience peut-être, cette jeunesse, est-ce que là, se faire reprendre au score, est-ce que à quoi vous l'attribuez, avoir perdu un peu le fil du match?